J'ai été vraiment frappé par un texte à l'Internet de Jean-Christophe Jasmin. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà rencontré. C'est un pasteur à Montréal. Et son texte, tous inconfortables, qu'on peut trouver à l'Internet. Et puis, merci à Christian Masse. C'est lui qui m'a fait connaître ce texte. Mais revenons à notre sujet maintenant. J'aime le confort, c'est mon premier paragraphe, et je parle de moi-même. Je commence en disant que personnellement, oui, j'aime et je recherche le confort. Je suis un humain comme les autres. Quand Cheryl et moi avons acheté notre première maison en 1999 à Dorval, on venait d'avoir notre deuxième fille, Lauriane, et nous fuyions à l'époque une situation en appartement qui était inconfortable. Nos voisins se plaignaient de plus en plus du bruit que faisaient nos bébés, nos deux bébés. Et vous riez, mais c'était vraiment inconfortable. Par ailleurs, on avait un propriétaire inconfortable. Il était négligent, il ne s'occupait pas de nos plaintes, il ne s'occupait pas de l'entretien du bâtiment. Et donc, finalement, quand on a trouvé une maison qu'on a pu acheter et qu'on est rentré dedans, on s'est dit, « Ah, finalement, ça va vraiment être chez nous ici. » Mais vous savez quoi? Ce n'était pas encore chez nous. Les anciens propriétaires, c'était deux hommes, imaginez-vous. Ils avaient peu décoré. Ils fumaient beaucoup. Ils avaient plusieurs animaux de compagnie, des chiens et des chats. Beaucoup de travail à faire pour nous. Cela a pris du temps pour nettoyer, repeinturer, décorer, installer, éliminer les odeurs, enlever les taches sur les murs, nettoyer la crasse dans la tuyauterie, etc. Mais au fil des ans, et des mois et des années, on a pu mettre la maison, comme on dit chez nous, à notre goût. C'était à notre goût. On a créé un contexte qui reflétait notre personnalité et notre confort. On l'a adapté à nous. C'est donc dans notre nature humaine d'aménager notre espace de vie en fonction de notre confort personnel. Et même les renards et les oiseaux qui pourtant vivent en plein air, ils font la même chose avec leur tanière et avec leur nid. On dirait que Dieu nous a créé toutes les espèces différentes avec ce même réflexe. Mais vous savez, sans s'en rendre compte, on amène cette même idée dans l'Église. Je me joins à une Église qui n'est pas à mon goût, mais je vais travailler dessus en me donnant l'objectif pour qu'elle devienne à mon goût, pour que je m'y sente confortable et comme dans ma maison. Mais l'Église n'est pas une maison. L'Église n'est pas une maison. Je voudrais parler d'une tendance qu'on voit dans les Églises aujourd'hui. C'est que des individus puis des sous-groupes qui ont des choses en commun prennent leurs préférences personnelles et les généralisent à toute l'Église en les spiritualisant. Ça a toujours existé, en fait. Ça peut se manifester dans notre temps par les générations différentes représentées. Les plus vieux, par exemple, les gens de mon âge, on est habitué à certains types de louanges. Les jeunes adultes, ça, c'est un autre style. Les deux groupes vont graviter vers deux pôles opposés. Quelques années plus tard, l'Église, au lieu d'une seule Église, on en trouve deux. Une pour les plus vieux, une pour les plus jeunes. Et à la surface, on va dire, c'est bien, l'Évangile avance. Avant, il y avait une seule Église, maintenant, il y en a deux. Mais il faut se poser la question, est-ce vraiment le Seigneur qui est derrière ce changement, ou est-ce parce que les deux groupes se sont imposés ou ont essayé d'imposer l'un sur l'autre ses préférences? Et il y a eu en quelque sorte une brisure dans la communion fraternelle. Il faut en tout cas se poser la question. Un autre type de phénomène qui est arrivé souvent, c'est au niveau des églises multi-ethniques ou interethniques. Une église mixte devient deux églises. Par exemple, une haïtienne, une québécoise. Une africaine, une hispanophone. Et encore une fois, il faut se demander pourquoi est-ce que c'est arrivé? La question se pose même chaque fois que moi ou n'importe qui songe à quitter une église pour en joindre une autre. Ça peut être pour des raisons générationnelles ou de doctrine secondaire ou de niveau d'éducation ou peut-être de niveau spirituel de l'église. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais changer d'église. Mais aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce que le changement est vraiment nécessaire? Est-il vraiment poussé par Dieu lui-même? Ou est-ce que, au fond de moi, c'est la recherche du confort? Est-ce que c'est le confort que je recherche? Est-ce qu'on a raison de penser qu'il faut que je me trouve dans une église où je me sens bien? Une église où, pour moi, ça clique, comme on dit dans notre langage québécois, où je connecte facilement avec les autres. Une église où je ne serais pas gêné d'inviter les gens de mon milieu économique ou social. Bon, voici ce que M. Jasmin, le pasteur, a écrit à ce sujet. Il est pasteur d'une église semblable à la nôtre. Regardez ce que lui dit. Il dit, « De grandes divisions s'opèrent dans l'Église de Christ sous le couvert de l'idée pernicieuse que l'Église de Christ devrait être comme une maison, confortable et adaptée à mes besoins. » Bon, ça c'est un homme qui parle, mais que dit la parole à ce sujet? On a vu tantôt que Jésus a vécu l'inconfort pour notre bénéfice. Et on a le droit de se demander, bien, Jésus, il a souffert justement pour que moi, je n'ai pas besoin de souffrir, pour m'éviter de la souffrance. Bien, on va voir que dans la parole de Dieu, en ce qui concerne en tout cas la vie d'Église, c'est une erreur de penser comme cela. Alors, on va tourner vers une épître de Paul, celle qu'il a écrite à l'Église de Rome, et dont les membres semblent être justement aux prises avec l'inconfort. Parce qu'il y a deux groupes dans l'Église qui ont des préférences spirituelles différentes, liées à leur passé différent. Voici ce que Paul écrit aux Romains, et c'est loin dans l'Épître, donc il y en a qui connaissent moins ce passage, mais je le trouve vraiment important. Nous qui sommes forts, mais là, il se place du côté d'un groupe qui a une certaine préférence, une certaine liberté dans un domaine particulier. Le fort, on peut presque le lire entre guillemets. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas rechercher ce qui nous plaît. Ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Et ça, c'est une citation d'un psaume où le psalmiste dit, « Finalement, les injures envers Dieu, comme je me suis placé du côté de Dieu et de son peuple, les injures qui vont vers Dieu viennent vers moi, finalement. » Et c'est appliqué à Christ ici par Paul. Parlons un peu plus en détail de cette situation à Rome que Paul voyait. Dans cette église, cette première église de Rome, il y avait un problème de tension culturelle. Au début de cette église, la majorité des membres étaient juifs. On avait vu l'année passée, quand on a vu le livre des Actes et puis le jour de la Pentecôte, il y avait des Juifs de partout au monde qui étaient à Jérusalem et certains d'entre eux qui se sont convertis à Christ sont retournés à Rome et c'est sans doute eux qui ont fondé cette église qui était juive au départ, chrétienne, croyant en Jésus-Christ. Et eux avaient leur manière tout naturelle de pratiquer la foi chrétienne. En pratiquant ce qui leur venait naturellement, c'est-à-dire la loi juive. Ils le faisaient par réflexe. Ils l'avaient toujours fait et ils le faisaient en tant que chrétiens. Alors, parce que les viandes vendues dans les marchés à Rome étaient sacrifiées aux idoles, beaucoup d'entre eux, semble-t-il, étaient des végétariens. C'était normal pour eux de ne pas manger de viande. Et ils respectaient les fêtes du calendrier juif. Ils étaient habitués. Ils ne discutaient même pas de ces choses entre eux. C'était par réflexe. C'était leur préférence. Mais assez rapidement, ça aussi, on l'a vu dans le livre des Actes, les non-juifs commencent à être atteints par l'Évangile. Et assez rapidement, ils sont devenus la majorité dans l'Église de Rome. Ils commencent à rentrer, puis là, ils commencent à rentrer en masse, puis là, ils deviennent majoritaires. Et quand Paul écrit la lettre, ils sont plus nombreux que les Juifs. Puis eux, ils ont une autre approche à la louange, à la nourriture. C'était sans doute des gros mangeux de viande. Le calendrier, et ils vivaient le calendrier autrement, et cela créait de l'inconfort dans l'Église de Rome. C'est clair dans ces chapitres de 14 et 15 de l'Épître aux Romains. Lorsque Paul dit les forts et les faibles, comme je disais tout à l'heure, au fond de sa pensée, il voit que tout le monde à Rome se croit fort dans ses préférences, mais que tout le monde finalement est faible devant Dieu. On est faible quand on est heurté par les habitudes des autres. Puis voici ce que Paul dit aux Romains, aux chrétiens romains, c'est que qui que tu sois, il ne faut pas que dans l'Église, tu recherches ce qui te plaît à toi. Ça, c'est un principe de base. Lorsqu'il dit au verset 1, « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de nous supporter et de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. » Bon, maintenant, parlons de l'oasis et puis de moi et de toi. Nous sommes une église, je dis qu'on est de plus en plus une église multitout. On est multigénérationnel, on est multiethnique, on est multinational, on est aussi multiéconomique, puis on est aussi multiéducation. Et peut-être que j'en oublie des multi. Multigéographique. Et peut-être Dieu va ajouter d'autres multi. Mais comment appliquer le principe que Paul enseigne dans notre contexte? D'abord, je voudrais dire qu'on est avantagé par rapport à l'Église de Rome. À l'Église de Rome, leur religion à l'époque, la foi chrétienne, était illégale. Toute leur réunion était dans les maisons, ce qui fait qu'ils se frottaient de près aux habitudes de vie et aux convictions intimes de tout un chacun. Et nous, c'est vrai qu'on essaye d'aller vers cela dans nos cellules, mais il faut quand même avouer que c'est surtout le dimanche matin qu'on va se frotter à des gens très différents de nous, des chrétiens avec des habitudes différentes. Et ici, on est dans un lieu neutre et public. C'est quand même un peu plus facile de garder privé mes éléments privés, mes convictions qui peuvent déranger, mais quand même, le problème qui existait à Rome existe parmi nous. Puis j'aimerais justement rappeler quelque chose qu'on a discuté ensemble il y a un an, à l'été 2016, c'était la question de la tenue vestimentaire. Parce que plusieurs membres avaient abordé, avaient soulevé la question dans l'Oasis. Et notre frère Gunner l'avait bien, très bien abordé dans un sermon il y a un an. Et il dit, prenons les Québécois de souche. Telle sœur ou tel frère qui est Québécois de souche. Ça veut dire quelqu'un qui est né au Québec, qui a grandi au Québec, mais qui est originaire ethniquement des colons qui sont venus établir la terre ici dans les siècles passés. Les Québécois pure laine qu'on disait autrefois, et on le dit encore. Moi-même, j'en fais pas vraiment partie parce que j'ai grandi au Québec, oui, mais mes parents, c'est des immigrants. Mais ça, je vous raconterai plus tard. Mais les Québécois de souche, je partage cette culture aussi que je vais pas souvent porter des vêtements formels le dimanche. Et puis ça, c'est ma manière de dire, je veux me montrer égal aux autres. Et je veux me montrer humble devant Dieu. C'est comme dans notre culture aujourd'hui, parce que quand j'arrive dans une réunion habillée plus chic que les autres, ça passe pour que je veux me passer comme supérieur à eux. C'est vraiment une réalité dans la culture ici. Et donc, vous savez, moi et ma femme, on discute souvent. On va à telle fête, ils vont être habillés comment? Et puis, pensent, oh non, c'est trop formel ça, mais pas ça. Les gens vont penser que tu te prends pour un autre. Ça veut dire que tu te mets au-dessus des autres. Et donc, on se sent que c'est une manière d'honorer les autres et Dieu, d'être habillé un peu décontracté quand on arrive à l'Église. Par contre, corrigez-moi si je me trompe, mais si je prends une sœur ou un frère qui vient de Côte d'Ivoire, hein, je vous prends un exemple, mais vous n'êtes pas les seuls, je crois. C'est souvent différent. Le vêtement chic n'est pas une marque d'orgueil, mais c'est une marque de respect. C'est une marque de respect. Pour ce frère, OK, suivez-moi. Avant d'intervenir, attendez que j'arrive à ma conclusion. Oui. Le vêtement chic n'est pas une marque d'orgueil, mais une marque de respect. Pour ce frère-là qui vient de Côte d'Ivoire, puis dans les Antilles, je vois que c'est la même chose. J'étais à un gala de l'Église anglophone qui hier, qui se réunit dans ce bâtiment, et chic, très chic. Ça serait offensant d'arriver dans le culte le dimanche pour ce frère habillé décontracté. Ce serait un manque de respect envers Dieu. C'est quand même important de le dire. Alors, voyez-vous ce qui se passe ici? Là, j'arrive à mon thème. C'est que inconsciemment, deux frères arrivent à l'Oasis avec des bonnes intentions, avec des motivations pures, chacun de leur côté, quand ils se préparent. Et en même temps, ils vont se rendre inconfortables l'un et l'autre dans la réunion. Comprenez-vous? Comprenez-vous ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je cite encore une fois mon ami Jean-Christophe Jasmin, et il dit ceci, « Je crois que l'Écriture ne nous permet pas d'imposer ni à l'un ni à l'autre d'agir contre sa propre conscience. On doit plutôt appliquer ce que j'appelle le principe d'inconfort universel. » Aïe aïe, le principe d'inconfort universel, où aucun groupe dans l'Église, âge, origine, etc., ne peut s'attendre à être entièrement confortable. Les Québécois de souche n'accueillent pas les Québécois haïtiens dans leur maison. Non, c'est Christ qui nous accueille dans la sienne. Amen. On relit cette dernière partie. Les Québécois de souche n'accueillent pas les Québécois haïtiens dans leur maison et les Québécois haïtiens n'accueillent pas les Québécois de souche dans leur maison. Non, c'est Christ qui nous accueille dans la sienne. Amen. quelqu'un va demander, mais alors c'est quoi notre identité à l'Oasis? Bien, moi je répondrais que notre identité c'est Christ, puis c'est sa mission. C'est ça l'identité réelle de l'Oasis du corps de Christ. Oui, tu as une identité culturelle personnelle, et pas seulement personnelle, celle de ton peuple. Eh bien, cultive-la dans ta maison, cultive-la dans ta famille, cultive-la dans ta vie de tous les jours. Elle est une bonne chose, c'est Dieu qui te l'a donnée. Lorsque nous nous réunissons à l'Oasis, tu viens ici avec ta culture et tu viens l'offrir, mais comme les autres, sans l'imposer. Ta job, c'est plutôt d'accueillir l'autre avec sa culture, en présentant la tienne, parce que tu la portes tous les jours de toute façon. Mais ce que tu dois activement promouvoir dans l'Oasis, c'est la mission, c'est-à-dire notre foi commune, notre participation ensemble à la famille de Dieu, et puis notre mission commune. Amen? Amen. Êtes-vous avec moi?
Oui.
Bon, OK. C'est correct si vous n'êtes pas d'accord. Je pense que c'est un sujet difficile et on pourra y revenir. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'amener ces choses ce matin. Accueillir comme Christ nous a accueillis. La Bible nous invite à regarder à Christ pour voir comment accueillir les autres et adorer avec eux. Les versets 5 et 6 disent que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous lui rendiez gloire. Ça, ça parle de l'adoration, puis ça peut se référer concrètement à nos temps où est-ce qu'on chante les louanges de Dieu ensemble le dimanche matin. Mais il y a une attitude dans laquelle faire ça, que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour se préparer, accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Amen. Comme Christ, accueillez-vous comme Christ vous a accueilli. Ça veut dire de la même manière que Christ vous a accueilli. On ne parle pas juste de faire la même chose, mais de le faire de la même manière. Comment est-ce que Christ nous a accueillis? Ce que Paul dit, c'est qu'il a justement fait l'effort de ne pas chercher ce qui lui faisait plaisir à lui-même. Et nous devons limiter dans cette attitude les uns avec les autres dans l'Église. Il n'a pas cherché ce qui lui faisait plaisir. Donc, quand je participe à mon Église à l'Oasis, et je vais dire aujourd'hui « mon Église » entre guillemets, il faut que je me rappelle que c'est l'Église de Jésus. Ce n'est pas vraiment la mienne. Bien, ça l'est, mais seulement parce que Jésus m'y invite. C'est son Église. Et Jésus réunit dans cette Église avec moi des personnes qui peuvent me rendre inconfortable, y compris des enfants qui bougent beaucoup à côté de moi ou devant moi, y compris des personnes habillées différemment de moi, et qui peut-être me regarde deux fois quand j'arrive à l'église avec mon habillement. Des personnes qui peut-être chantent ou veulent chanter des chants que je ne connais pas. Des personnes qui peut-être chantent des chants que j'aime et que je connais, mais ils chantent avec un beat différent. Des gens qui prient dans un style qui me dérange. Peut-être que c'est des personnes moins instruites que moi. Peut-être que c'est des personnes que, honnêtement, je considère moins matures spirituellement que moi. Jésus m'invite dans son Église. Relisons. Que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va conclure. Au fond, une église vivante, une église vraiment vivante, c'est un endroit où personne n'est supposé être confortable. Pourtant, si c'est Jésus qui t'a appelé dans cette église, tu vas découvrir cette joie profonde de te savoir à ta place. Chacun va se sentir à sa place. Non pas parce que tu es confortable, mais parce que tu travailles là avec Jésus-Christ pour accueillir tes frères et tes sœurs à la gloire de Dieu. Ma prière pour l'Oasis, c'est que nous ayons tous cette même pensée dont parle Romains chapitre 15. Je viens à l'Église non pour moi-même, mais pour édifier les autres et les prendre par la main pour adorer avec moi le Sauveur et qu'à travers cet effort d'amour envers les autres, je laisse couler l'amour de Dieu en moi. Amen. Alors, quoi de mieux que de prendre un petit moment avant qu'on reprenne la louange? En fait, on va avoir de la musique et la Sainte-Seine en même temps, mais prenons un moment pour saluer un frère ou une sœur. Allez-y, serrez la main à quelqu'un qui est proche de vous.